Bonjour à tous. Une grande table aujourd'hui de la base au sommet en ce jour de lancement du grand débat national. Nous poursuivons la réflexion ouverte hier sur les relations entre le peuple et le pouvoir. Avec le Goncourt 2017 tout d'abord. Goncourt pour l'ordre du jour. Il sera avec nous jusqu'à 12h30. Le peuple en colère. L'histoire continue. Dans un court récit, la guerre des pauvres qui paraît chez Actes Sud, l'écrivain Éric Guyard marche sur les pas du prédicateur Thomas Münzer et nous raconte l'histoire d'un soulèvement, celui de l'homme ordinaire. Puis Emmanuel Macron de l'ancien au nouveau régime. Nous rejoindrons le romancier Patrick Rambaud qui poursuit ses chroniques d'un règne avec cette fois celui d'Emmanuel le Magnifique, titre dont ce roman paru chez Grasset, en dialogue avec Nicolas Dometnac, directeur de la rédaction du nouveau magazine littéraire. Nos invités sont à retrouver à partir de 12h55 dans votre grande table des idées, à écouter bien sûr sur France Culture.
La grande table. Olivia Jesbert.
À la place du bon peuple de Dieu qu'on invoquait depuis toujours, ce bon peuple muet, pitoyable et consentant, auquel on accordait sa volonté d'eau bénite, Münzer en introduit un autre, plus envahissant, plus tumultueux, un peuple pour de vrai, les pauvres laïcs et paysans. On est loin du gentil peuple chrétien, c'est de l'homme ordinaire qu'il s'agit. Et ce peuple-là pue, il grogne, mais il pense aussi. Bonjour Éric Guyard.
Bonjour.
Extrait de votre nouveau récit, La guerre des pauvres, qui paraît chez Actes Sud. Dans La guerre des pauvres, vous racontez le combat de Thomas Münzer, ou Münzer, prédicateur du XVIe siècle, qui réussit à soulever le peuple contre les puissants. Que nous raconte son histoire? Est-ce que c'est toute l'histoire aussi de l'inégalité?
Oui, enfin, le livre raconte à la fois son histoire, il raconte aussi un mouvement plus vaste, puisque dans un des premiers chapitres, je résume d'une certaine façon les 200 ans qui ont précédé, notamment en Angleterre, en Bohême, et puis donc ensuite en Allemagne, et qui sont, où on voit en tout cas une succession de révoltes. Puisqu'au fond, c'est ça peut-être, l'histoire du mécontentement est au fond une histoire à la fois méconnue pour une part, et puis du coup qui semble être discontinue, c'est-à-dire que ça revient en fait, ça insiste, puisque la structure élémentaire de nos sociétés est l'inégalité, elle l'est au XVIe siècle, elle l'est encore aujourd'hui.
Alors il critique la corruption de l'Église, ce Thomas Münzer, il pose une question toute simple, soulève un paradoxe irrésolu jusqu'ici, pourquoi le Dieu des pauvres est-il si bizarrement du côté des riches et avec les riches, et ça sans cesse. Il cite les évangiles, vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. Quelle chrétienté ou quelle chrétienté défend-il ?
Alors, d'une certaine façon, on est toujours entre les principes et ce qui a lieu. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on voit bien qu'aujourd'hui, entre l'égalité des droits et l'égalité tout court, il y a une différence tout de même. Donc, au fond, ce que font la plupart du temps les révoltés, c'est, enfin, souvent, en tout cas, ramener la société dans laquelle ils sont, d'abord, avant tout, à ses propres principes. Et c'est-à-dire que, en somme, on s'empare de l'idéologie qui est disponible. Alors, pour Münzer, l'idéologie disponible, c'est le christianisme. C'est d'ailleurs un christianisme déjà un petit peu particulier, puisque Luther est passé par là, et que donc on est en pleine réforme. Luther a ouvert, au fond, une séquence qui est, on peut dire, on voit apparaître la subjectivité moderne, c'est-à-dire une subjectivité critique. Les textes vont être disponibles en langue vulgaire, on va pouvoir les discuter. Et Münzer s'empare de ça, c'est-à-dire, puisqu'on peut lire les textes et les interpréter, eh bien, il les interprète. Mais il va même plus loin, c'est-à-dire qu'il propose, au fond, à tout le monde, à l'homme ordinaire, de les interpréter. Il se trouve que les principes évangéliques ne sont pas tout à fait ceux que l'Église applique.
Il faut dire qu'on est au XVIe siècle, dans une époque très imprégnée par ces valeurs-là, et même plus par cette hiérarchie sociale dans laquelle l'Église avait aussi sa place. La traduction des textes sacrés, et notamment celle du livre de John Wycliffe, que vous racontez aussi, et qui disait « il faut traduire la Bible en anglais pour établir une relation directe à Dieu, pour se passer des intermédiaires que sont les prêtres, ce clergé là encore corrompu », c'est une idée qui va être reprise par Münzer, qui va dire « la messe dans sa langue ». Avec lui, écrivez-vous « Dieu parle allemand ». Et ça, c'est une rupture quand même très importante.
Oui, tout à fait. Alors là encore, en le ramenant un petit peu à nos jours, d'une certaine façon, il y a toujours une question de langue. On voit bien qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, la langue du politique a été intoxiquée, on peut dire, par la langue des communicants. C'est une langue morte, au fond. Et bien évidemment, les gens souhaitent une langue vivante. Et Münzer, comme Luther, souhaitait une langue vivante. Et juste pour citer le passage, non pas un passage de Münzer, mais un passage d'une œuvre beaucoup plus célèbre, les 95 thèses, enfin l'une des thèses de Luther, donc qui est à l'origine de la réforme, vous voyez, pour voir l'ambiance un petit peu. De même, pourquoi le pape, dont les richesses sont aujourd'hui plus grosses que celles des Crassus les plus opulents, ne construit-il pas la seule basilique Saint-Pierre avec ses propres deniers plutôt qu'avec ceux des pauvres fidèles? Il est question des indulgences, évidemment. À l'époque de Münzer et de la guerre des pauvres en 1525, il est question d'un impôt et d'une révolte. Donc on voit bien que à la fois l'ambiance du temps est autour des richesses et qu'aujourd'hui, au fond, de ce point de vue-là, on en est un petit peu au même point. Il y a en quelque sorte deux langues. C'est-à-dire là, tout à coup, Luther, je crois, avec cette thèse, s'adresse aux gens d'une façon beaucoup plus générale. C'est pas au prélat qu'il s'adresse.
Oui, et la réforme, au départ, part quand même très haut. Elle est pleine de promesses. Elle va aussi se tasser petit à petit.
Oui, et puis comme vous le disiez, il y a une question de langue aussi. Il y a une question de langue, c'est-à-dire, il s'agit évidemment de traduire la Bible en langue vulgaire, la liturgie avec Münzer, puisque Münzer s'intéresse, lui, aux analphabètes, donc il s'agit que tout le monde puisse comprendre, au fond, la parole de Dieu. Mais ça passe aussi à travers, au fond, une langue véritablement vivante. C'est-à-dire, ça signifie pas seulement une langue inspirée, au fond, ça signifie surtout une langue qui soit pas préconstruite. Et on rompt avec la scolastique, on rompt avec un discours tout fait, et en somme, c'est aussi un discours qui, tout à coup, est le fruit du débat. Au fond, c'est, d'une certaine façon, un discours collectif.
Alors, la vie de Münzer, et vous le racontez dans cet ouvrage « La guerre des pauvres », ce court récit que vous avez mis en scène, Éric Vuillard, à votre manière, avec votre style, qu'on commence aujourd'hui à approcher, de 14 juillet votre précédent récit paru aussi chez Actes Sud. Vous racontez donc la vie de cet homme et ce qui a pu être à la fois le déclic de la pendaison de son père jusqu'au premier constat de cette inégalité, de cet ordre qui ne produit rien de positif, à la manière dont il va commencer à s'adresser aux puissants et soulever aussi le peuple derrière lui. Vous racontez les précédents, et notamment John Bull, Wat Tyler en Angleterre, qui s'était soulevé suite à une poll tax en 1380. Alors déjà là, on était face au mécontentement fiscal. Puis
il y a récurrent.
Hein, ça nous suit dans l'histoire. Puis Janus en Bohème. Ici ou là, on se rend compte que c'est quand même toujours un peu les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, que l'histoire nous enseigne peut-être ça. La révolte finir toujours par renaître, Éric Vuillard.
Oui, c'est-à-dire que, au fond, ce qu'il y avait de singulier, qui regardait aussi bien la composition du livre que peut-être essentiellement son écriture, au fond, c'est que on peut écrire l'histoire de deux manières. On peut écrire, et d'ailleurs, on peut écrire un roman de deux manières. On peut écrire une histoire comme si elle était achevée. C'est d'ailleurs souvent comme ça que les romanciers, j'imagine, procèdent, puisqu'ils connaissent la fin. Or, là, il se trouve que précisément, j'ai écrit une histoire dont je ne connais pas la fin, puisqu'elle n'est pas terminée. Au fond, l'histoire des inégalités, on le sait, n'est pas finie. On vit dans des sociétés encore très inégalitaires, très différentes, évidemment, sans plus les société féodale, mais ça irrigue, je crois, toute l'écriture du récit, et surtout, je crois que ça lui donne fatalement une sorte de rythme au sens profond de ce mot et de ce que peut être l'écriture, c'est-à-dire je suis directement, enfin, impliqué dans l'écriture, puisque l'histoire n'est pas terminée, eh bien, c'est une histoire qui me regarde moi aussi directement, qui nous regarde tous.
Et cette fin, vous auriez envie de l'imaginer, de l'inventer?
Cette forme, vous voulez dire?
Cette fin de l'histoire.
Hein. Ah, cette fin. Écoutez, oui, on a tous envie, je pense, de davantage d'égalité. Enfin, il y a sans doute des gens qui souhaitent plus d'inégalité, mais ils n'osent pas le proclamer en général directement.
Tout roman est historique. Voilà ce que disait Marguerite Yourcenar, et c'était en 1971.
Tout roman est historique. Pour la simple raison que tout roman se passe dans le passé. Et que un événement situé, mettons, à un an d'ici ou à six mois d'ici dans le passé, est aussi irrémédiablement perdu, aussi difficile à récupérer que s'il se passait il y a des siècles. Je donnerai pour exemple le fait, par exemple, que je me trouvais à Paris en 1968 et que si l'envie me prenait d'écrire un roman sur la révolte étudiante à Paris, je ferais exactement ce que je fais quand j'essaie d'évoquer un événement se plaçant dans la Rome du IIe siècle ou à l'époque de la Renaissance. En fait, deux de mes romans ont des sujets contemporains Et j'ai constaté, non sans étonnement, que je retombais avec eux dans l'histoire. Il y a d'ailleurs à cela une excellente raison. C'est qu'à notre époque, et peut-être à toutes les époques, la politique, c'est-à-dire ce qui est le tissu même de l'histoire, joue un rôle considérable dans nos vies, dans les vies humaines, que nous le voulions ou non, que nous l'acceptions ou non. Et que par conséquent, même lorsque nous nous retournons vers une aventure tout à fait privée, d'il y a 5 ans ou il y a 10 ans, nous rencontrons un certain nombre d'événements, de faits qui sont déjà historiques et dont nous avons à tenir compte.
Alors voilà, on retombe toujours dans l'histoire, comme l'évoque Marguerite Yourcenar. Est-ce que, comme elle, Éric Guyard, vous êtes parti d'un sujet d'aujourd'hui, d'une ambiance, d'une actualité, pour replonger dans cette histoire paysanne allemande? Quel a été le déclic, l'idée?
Je crois que d'une certaine façon, c'est toujours les deux. Et peut-être, on a souvent le sentiment, effectivement, que c'est à partir de, que s'intéressant à une période passée, au fond, on éclaire le présent, et je crois que c'est l'inverse, au fond. On part toujours de l'endroit où on est, des soucis qui sont ceux de son temps, au fond, et c'est à partir de là qu'on regarde toujours plus ou moins, d'ailleurs, son temps et le passé aussi, hein. Et donc, au fond, c'est plutôt ce mouvement-là, je crois, qui domine. On peut dire que tout regard sur l'histoire est toujours, de ce point de vue-là, fatalement anachronique, intéressé, on peut dire, compromis par l'époque depuis laquelle on le regarde.
Tout fait d'actualité contient une part de fait historique, en fait.
Oui, et surtout que si on regarde l'histoire, au fond, on la regarde à partir des intérêts qui sont ceux du présent. On peut pas s'en dépouiller, c'est-à-dire l'idée d'un savoir historique qui serait impartial, dans ce cas-là, voudrait dire qu'on regarde l'histoire à partir d'un lieu inexistant, vous voyez, je sais pas, un lieu angélique, au fond. Et c'est pas du tout le cas. Et donc, le déclic a été quand j'ai vu, il y a quelques années, après, je crois qu'à l'inauguration de la première prison Bouygues, il y avait eu à Poitiers, puisque c'était dans le coin, le baptistère qui avait été tagué, sur lequel donc on avait écrit Omnia sunt communia, ce qui signifie toutes choses sont communes. Et donc quand j'ai vu la photo de ce graffiti en latin, c'est étrange puisque c'est un graffiti qui a été, c'est une formule qui a été utilisée pendant la guerre des pauvres et notamment par Thomas Münzer. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est étrange, ce latin aujourd'hui, Thomas Münzer maintenant. Et donc je connaissais Münzer, j'avais lu des choses, mais j'ai eu envie de lire ses écrits.
Vous êtes allé retrouver l'origine aussi de cette citation latine.
Voilà. Alors, je suis allé chercher ses textes et là j'ai découvert cette prose, puisque Münzer est un écrivain de grand talent.
Et alors pourquoi la guerre des pauvres, vous qui portez toujours une attention très pointue au titre de vos récits?
Oui, alors les titres, vous savez, c'est toujours une cristallisation, c'est, disons, le point un petit peu, je sais pas comment dire, un peu poétique de l'écriture littéraire, puisque ça a en tout cas, avec la poésie, ce point en commun qu'il y a une part d'obscurité dans le titre, les songes ou leur rôle, le rythme.
Alors mais vous là, faites traditionnellement plutôt dans la sobriété.
Oui, oui, tout à fait.
14 mais... juillet, Congo, l'ordre du jour, c'est oui, pas oui, des titres fleuris qui ont votre préférence en tout cas.
Mais donc oui, le mot pauvre, au fond, quand j'ai eu cette idée, si j'ai conservé ce titre, c'est parce qu'au fond il y a toute une généalogie. Vous savez, on dit, j'ai trouvé jadis dans un très beau livre d'Arlette Farge, elle citait donc une archive où on interroge, je crois, un commissaire ou un clerc interroge un quelqu'un qui vient d'être arrêté et lui demande quel est son état. Il répond malheureux. Malheureux, c'est un mot du XVIIIe siècle. Misérable, Hugo en a fait le mot du XIXe siècle. Et en quelque sorte, on peut dire que prolétaire aura été celui du XXe. Pauvre est un autre terme. C'est un terme au fond plus concret en un certain sens. C'est une manière de pointer vers, comment dire, une nouvelle manière peut-être plus séculière, débarrassée de la moralité du malheureux, disons débarrassée de la pitié à l'égard du misérable. Voilà.
Et ce pourrait être le mot du XXIe siècle. Il y en a un autre qui n'est pas nouveau, mais qui ressurgit beaucoup en ce moment. La guerre des pauvres, je le disais, c'est un récit qui paraît chez Actes Sud. Le vôtre, Éric Guyard, c'est une autre histoire de la révolte, après celle que vous aviez déjà racontée dans 14 juillet, précédent récit paru en 2016. Et c'est d'ailleurs cette référence à l'histoire de la révolution dans le mouvement des Gilets jaunes qui revient le plus souvent avec le mot peuple. Écoutez cette parole de Gilets jaunes qui cite Mirabeau.
Pendant la Révolution, Mirabeau avait répondu à l'envoyé du roi « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en partirons que par la force des baïonnettes. Actuellement, nous sommes devant un pouvoir » qui ne respecte pas le peuple, mais qui en plus, d'une certaine façon, le méprise. C'est-à-dire qu'il ne l'écoute absolument pas et qui veut, si je puis m'exprimer ainsi, le mener à la baguette. Eh bien, le peuple qui est ici, à qui ce gouvernement a voulu faire peur en racontant des bobards, en disant que ça allait être la guerre sur les Champs-Élysées, qu'il y aura des morts, etc. On voit qu'il n'y a pas de morts, il n'y a rien du tout. Il n'y a que simplement un peuple qui demande à être écouté et qui ne veut plus d'un président qui n'a plus aucune valeur pour ce peuple-là, puisqu'il ne l'écoute absolument pas.
Cette récurrence du mot « peuple », Éric Vuillard, là où on parle habituellement aujourd'hui, poliment, de citoyens, comme sujet politique, comment vous, vous l'entendez, ce peuple de 2018-2019 ?
C'est justement que le peuple est une construction toujours politique, c'est donc la construction d'un autre sujet politique qui est en général plus tumultueux. C'est-à-dire, on voit bien qu'au fond, alors jusqu'à présent, on s'interrogeait sur à quoi servent les ronds-points. On en a tellement en France, à part financer les campagnes électorales. Et là, on peut se dire qu'au fond, les garants, finalement, des principes d'égalité, de liberté, de nos principes, sont aujourd'hui davantage qu'au Conseil constitutionnel sur les ronds-points, quand on entend cette personne nous parler de peuple avec à la fois cette ferveur et en même temps cette idée de l'histoire.
Pourquoi dans cette idée de l'histoire, cette référence permanente à la Révolution française ? Est-ce que c'est celle qui vous semble la plus pertinente aujourd'hui ?
Oui, je la comprends en tout cas très bien, je crois la comprendre en tout cas. C'est-à-dire que, tout simplement, la référence à d'autres révolutions, notamment aux révolutions communistes du XXe siècle, n'est pas une référence disponible aujourd'hui. Et puis, il se trouve qu'en plus, on est en France. La Révolution française a une histoire, elle a 200 ans d'histoire. Elle s'est diffusée dans le monde, elle s'est universalisée en quelque sorte, elle a été dans ses principes, je dirais qu'elle, comment dire, elle a été incorporée par beaucoup par le corps social, si bien que c'est une revendication à la fois, enfin c'est une idéologie disparate, mais disponible en tout cas, et une référence salutaire.
Alors vous racontez que la guerre des pauvres, quelque part, n'est jamais finie.
Et puis
que
pardon, je vous...
Oui, pardon,
juste une chose qui me vient dans ces mots,
pardon.
C'est que la Révolution française, en plus, a ceci de singulier, qu'elle est un processus au long cours. Il y a donc plusieurs révolutions en une, d'une certaine façon. Il y a une forme d'hétérogénéité, il y a différentes composantes dans la Révolution française. C'est-à-dire, ça n'est pas le prolétariat qui fait la Révolution française, ce sont des artisans, des petits commerçants, des ouvriers, voire des petits bourgeois. Et je crois que c'est ça aussi qui la rend aujourd'hui disponible pour le peuple français.
Et puis, comme vous l'évoquiez, cette révolte, cette révolution finit toujours par renaître. On se rend compte que cette histoire se répète toujours d'une manière ou d'une autre, comme la guerre des pauvres, qui n'est jamais finie. Sauf qu'on ne sait jamais mais quand cette histoire peut s'arrêter, ni quand elle commence d'ailleurs. Et vous l'écrivez dans ce récit, « Les exaspérés sont ainsi, ils jaillissent un beau jour de la tête des peuples comme les fantômes sortent des murs. » Il y a aussi une sœur qui disait « Ce sont les seigneurs eux-mêmes qui font que le pauvre est leur ennemi. S'ils ne veulent pas supprimer la cause de l'émeute, comment cela pourrait-il s'arranger à la longue ?» On voit d'ailleurs dans votre récit que Münzer va mourir décapité, tout comme son père pendu avant lui. L'histoire ici se termine là, pour lui, pour cette personne-là. Mais ce que ça nous raconte peut-être, c'est qu'au lieu de s'attaquer aux causes, on préfère souvent faire taire. Ça a été la réaction des princes face à lui. Ou faire traîner en longueur les négociations, plutôt que de résoudre les causes du problème.
Oui, je pense qu'on en a une illustration assez frappante aujourd'hui même.
C'est vous qui faites le parallèle.
Un débat très encadré. Donc, il se trouve que vous évoquiez Münzer de manière plus proche. Le livre est aussi un portrait, aussi, d'une certaine façon, puisque la différence entre cette époque et nos sociétés, c'est que, évidemment, la société allemande de ce temps est beaucoup plus hiérarchisée. Donc, Münzer, on peut dire que le peuple a besoin de théologiens comme Münzer, notamment pour écrire, pour faire circuler au fond sa parole. Et on voit qu'aujourd'hui, on est à un moment fort différent, où précisément toute représentation se trouve être repoussée. Quoi. Donc là, il y a une différence assez frappante, je crois. Et d'une certaine manière, on peut dire que les gens d'aujourd'hui ont pas mal appris du passé.
France Culture, il est midi 20 avec notre invité, l'écrivain Éric Vuillard, pour son nouveau récit « La guerre des pauvres » qui paraît chez Actes Sud.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
C'est fait, les mots sont dits de nouveau, ni par l'argent, ni par le pouvoir, ni par les princes, ces mêmes petits mots qui changent de forme, de ton, mais pas de cible, et qui, lorsqu'ils reviennent au monde, toujours s'acharnent contre l'argent, la force et le pouvoir. Ces mots vont petit à petit devenir les nôtres, ils vont mettre longtemps, très longtemps, à faire leur chemin jusqu'à nous. Vous nous racontez aussi, Éric Vuillard, dans ce court récit, la bataille des mots qui s'est jouée à cette époque-là, les mots qui sont une autre convulsion des choses, écrivez-vous. À nous de nous réapproprier les mots. Le langage est une arme puissante pour vous, Éric Vuillard.
Je pense que sinon, on n'écrit pas de livres, on ne fait pas de littérature. Je pense que la littérature, enfin le fait d'écrire des livres, c'est le fait de croire que dans l'écriture elle-même, au fond, dans le langage, il y a une sorte de puissance de vérité. C'est-à-dire que la vérité, en tout cas, c'est avoir une conscience aiguë du fait qu'elle ne peut pas se déployer hors du langage, au fond. Et c'est même penser, je crois, par exemple, que la vérité sur la société américaine, au fond, par exemple, serait plus présente dans les poèmes de Whitman que dans des études analytiques. C'est s'imaginer que dans cette écriture, dans le premier poème, par exemple, qui ouvre les feuilles d'herbe, le « I celebrate myself », etc., il y a quelque chose du sujet moderne qui se dit avec davantage de vigueur à travers la langue elle-même. Donc oui, je crois que pour une part, la vérité est rétive au compte-rendu. Elle a besoin d'écriture.
Mais en même temps, on n'est pas tous égaux devant les mots.
Non, bien sûr, et c'est aussi ce que raconte d'une certaine façon cette histoire. C'est-à-dire, c'est une histoire qui noue plusieurs choses, qui noue l'histoire de l'imprimerie, au fond, où on est... disons, à ce moment-là, où il y a une double inégalité, d'abord quand on ne peut pas lire le latin, et ensuite quand on ne peut pas lire tout court, donc on voit que cette inégalité va être en quelque sorte, non pas résolue, mais on va tenter une double résolution, Luther en traduisant la Bible en allemand, et ensuite Münzer en traduisant la liturgie en allemand, mais au fond, évidemment, Münzer reste un écrivain de grand talent, c'est-à-dire que Münzer ou Luther, d'ailleurs, ont bénéficié d'une éducation sophistiquée, ce sont des théologiens raffinés, ils savent parfaitement écrire, ce sont même de très grands pamphlétaires, au fond, tous les deux. Donc, il y a là, de ce point de vue-là, effectivement, par rapport aux paysans, à ce qui nous en reste, en tout cas, ou aux artisans, aux traces de leur passage, une inégalité frappante. Seulement, là où l'histoire se déchire, c'est que si la conscience de Luther s'arrête, au fond, une forme de conscience religieuse, c'est dans le périmètre de la spiritualité, au fond, que sa réflexion s'arrête. Celle de Münzer, elle s'étend, est en quelque sorte enseignée par le monde social. C'est comme si de s'être frotté justement à ces groupes de petits artisans, de commerçants des villes, de paysans des campagnes, eh bien la théologie de Münzer s'était faite soudain plus concrète. Alors, plus utile, peut-être.
Ouais. Mais c'est aussi ce qui est intéressant parfois quand on n'a pas Éric Vuillard, quand on n'a pas les mots, ou quand les mots qu'on prononce ne sont pas entendus, quand le pouvoir en face reste sourd, il y a l'utilisation de la violence, d'une forme d'action et de radicalité. Je vous propose de retourner en 2015, au moment de l'affaire de la chemise déchirée des cadres d'Air France.
Le carnage que ça engendre, des licenciements, c'est quoi à côté d'une chemise arrachée, d'un mec qui s'est fait simplement un peu molester et encore molester.
Quelqu'un était dans le coma, vous le savez?
Ouais, et alors? Il y a cinq contis qui se sont suicidés, il y en a un qui s'est jeté devant les rails de chez Continental. C'est quoi ça? C'est rien? Parce que la une, vous l'avez faite, la une. Vous avez tous fait la une quand on a pété la sous-préfecture, quand le directeur de chez Continental, il a pris des œufs sur la gueule. Alors, vous avez tous fait la une, je vais finir. J'étais un non-violent toute ma vie, mais malheureusement, je ne crois plus au pacifisme. Oui. Je crois en la violence. Parce que vous voyez, par exemple, on a pété la sous-préfecture de Compiègne. Ça faisait 6 semaines qu'on réclamait des négociations. Aucune négociation n'était acceptée. On a pété la sous-préfecture de Compiègne. 3 heures après, on nous autorisait tripartite, tout ce qu'on voulait, on l'avait. Les agriculteurs, ils pètent, ils ont obligatoirement.
C'est la seule
les taxis,
solution.
Mais oui. Parce qu'on est dans une société où il y a que ça. Les gens en face, les puissants n'ont peur que de ça, n'ont peur que de la violence.
Xavier Mathieu, délégué syndical de la CGT de l'usine Continentale, il était alors sur le plateau du grand journal de Canal+. Éric Vuillard, on a l'habitude de dire qu'on n'obtient rien par la violence. Est-ce que l'histoire a prouvé le contraire?
Bah, il semblerait ces derniers temps tout de même qu'en tout cas, lorsque la température monte, le pouvoir cède un peu plus que d'habitude. Mais je voulais dire qu'il y a aussi une inégalité. Pour parler de revenir à la guerre des pauvres, à Münzer et à ce mouvement insurrectionnel donc, qui s'est produit au XVIe siècle, il y a aussi une inégalité devant la mort, devant la violence elle-même. C'est-à-dire la bataille qui clôt au fond cet épisode va faire du côté des pauvres à peu près entre 4 et 5 000 morts. Il y en a moins d'une dizaine de l'autre côté. Donc vous voyez que là, la disproportion est tout simplement effarante. Et puis, au fond, là, vous savez bien que la violence, c'est une chose difficile à qualifier. Il y a aussi la violence des mots. Enfin, vous voyez, quand est-ce que ça commence, on déchire. Donc, il y a les mots, une injure, une chemise déchirée, etc. etc.
Voilà, on oppose souvent les violences physiques, matérielles, aux violences symboliques ou à la violence sociale qui peut
c'est
s'exprimer
aussi.
C'est
ça, donc aussi. Ça va de l'injure jusqu'à, disons, Münzer décapité. Et donc, pour citer un diplomate polonais à la cour de Charles Quint à propos de Luther, il disait « Le visage de Luther est comme ses livres. Ses yeux sont pénétrants et brillent de façon presque inquiétante, comme on le voit parfois chez les possédés. » Donc vous voyez, on est toujours l'enthousiaste et le violent d'un autre.
Alors avec la bataille d'Occident, avec Congo, avec 14 juillet, avec l'ordre du jour, et maintenant avec la guerre des pauvres, Éric Vuillard, l'ensemble de vos récits, livres, constituent presque une fresque historique, en tout cas des fragments de cette fresque qui reste à trous. Et je ne sais pas si vous aurez le temps, dans toute une vie, de réécrire toute l'histoire du monde, et à commencer par l'histoire de France. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, vous faites entrer un narrateur dans l'histoire que vous racontez, à la première personne. Ici, on a le « je l'imagine », où on sent aussi une mise à distance des faits, du réel, avec votre subjectivité. Quel est ce droit du narrateur que vous êtes? C'est un droit à l'imagination aussi, par rapport à une réalité historique?
Oui, au fond, je le prends en tout cas, c'est venu spontanément avec les premiers livres, et si je l'ai conservé, c'est en y réfléchissant, parce que j'y ai vu une forme de démocratisation du narrateur. C'est-à-dire, c'est une façon de rompre avec cette figure bizarre, au fond, cette figure un peu hautaine, transparente, qu'est le narrateur. C'est-à-dire, il se trouve que normalement, dans le roman, quelqu'un raconte, au fond, l'histoire, mais on ne sait pas qui c'est. Quelqu'un tire les ficelles, mais on ne le voit jamais. Et on sait bien que quand une idéologie est, enfin, que quand quelque chose est transparent, c'est en général l'idéologie, en fait, dominante, celle qui est hégémonique, qui s'exprime à travers cette transparence. Et donc, J'ai tout simplement préféré laisser ces traces de mon passage, qui pour le coup est un passage réel. Alors évidemment, l'écriture est toujours une chose artificielle et construite, mais c'est un jeu, c'est le petit pronom personnel de l'école, en fait, qu'elle m'a légué et qui s'exprime là naturellement.
Trace aussi de votre subjectivité.
Tout à fait, oui, c'est
présence.
Ça, absolument. Mmh. C'est-à-dire, c'est la façon la plus simple, spontanée, que j'ai trouvé de rompre avec cette figure qui a été très décriée dans les années 50 et 60, à juste titre, qui est celle du narrateur. Et en un temps aujourd'hui, au fond, où je pense que chacun d'entre nous est un peu exaspéré par les discours construits, préconstruits, par les positions artificielles, eh bien, au moins, je ne dis pas que c'est parfait, c'est un choix précaire, pas forcément définitif, mais c'est une manière, vous voyez, de prendre au mot cette phrase de Hegel qui disait « L'art moderne, c'est celui qui laisse dans l'œuvre la trace de l'outil. Ben, ce petit jeu, c'est ma trace. »
Merci beaucoup à vous, Éric Vuillard. La guerre des pauvres, votre récit, vient de paraître chez Actes Sud. Merci à vous.
Merci.